Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce débat de midi où, une fois n'est pas coutume, il sera autorisé de garder son écran à table et même de voir ce qu'il se passe sur les plateformes de streaming, puisque nous allons parler des séries. Sont-elles en train de tuer le cinéma? Voilà une étrange question, alors que les salles obscures font actuellement le plein, hurle l'estivant auditeur de France Inter, tranquillement à l'écoute dans son hamac. Et c'est vrai, puisque selon les estimations du CNC, depuis le 1er janvier 2023, les cinémas ont enregistré 91 millions d'entrées, soit plus de 25% de plus par rapport aux 6 premiers mois de 2022. Et vu les files d'attente pour Barbie et Oppenheimer cet été, on peut s'attendre à un beau fixe qui se maintient. Mais alors, d'où vient cette impression d'un septième art un peu à la peine face aux séries, Succession, The Last of Us, Salade grecque ou Extraordinary, autant de noms qui résonnent de plaisir de spectateurs et toujours du même cri. Non, ne spoil pas la fin, je t'en prie. Le cinéma et la salle offrant un cocon ont parfois du mal face à l'attrait du canapé. Si sur Netflix, Amazon ou Disney+, on a l'impression de passer plus de temps à chercher une série qu'à la regarder, le modèle proposé a changé la donne aussi bien au niveau créatif que social, qui se soucie encore de qui fabrique tel ou tel programme, alors que les plateformes de streaming parlent de contenu plutôt que de programme. On aime le cinéma, mais on aime aussi être chez nous. Alors, est-il possible d'avoir le niveau de série que nous avons actuellement et la qualité cinématographique où les deux ne peuvent pas cohabiter dans le même monde? Le débat de midi, on attend vos réactions de spectateurs et de gourmands de culture via l'appli Inter pour vos notes vocales et messages. Par WhatsApp également au numéro suivant, le 07 64 13 70 07, 07 64 13 70 07. Le débat de midi, bon, je peux vous le dire maintenant, je n'ai jamais vu un épisode de Game of Thrones, mais ça va être bien, je vous assure, quand même. Le débat de midi, allez moteur.
Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi. Sur France Inter.
Et pour en parler autour du débat de midi, de la table du débat de midi, nous recevons Marie Telling. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au HuffPost, co-présentatrice des podcasts Pic TV et amie chez Slate. Et vous êtes co-autrice également du livre Le petit éloge des anti-héroïnes de série aux éditions Les Pérégrines. Également Renan Creuse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, critique cinéma, rédacteur en chef du Cercle Série. Frédéric Saucher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur, notamment votre dernier film, Le cours de la vie, qui est sorti en mai dernier. Vous êtes professeur de cinéma et responsable du master scénario, réalisation et production à l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne. Et également Emmanuel Taïeb, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de Saison, la revue des séries, et professeur de sciences politiques à Sciences Po Lyon. Alors, nous avons donc intitulé cette série, cette émission, les séries vont-elles tuer le cinéma? Mais c'est un peu une série, débat de midi. Renan Creuse, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, on peut le dire, les séries sont plus fortes que le cinéma?
Non. Enfin, c'est vraiment une... Alors, je suis désolé.
Ah non,
votre question, elle est chouette, mais en même temps, c'est facile d'y répondre. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de compétition. C'est-à-dire, c'est comme opposé depuis, je sais pas, c'est comme si on opposait la lecture et le cinéma, le théâtre et la série, la radio et la télévision. C'est quand même des très, très vieilles questions. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette question-là, elle est plus à poser dans la nuance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'apportent les séries? Qu'est-ce qu'apporte le cinéma? Plutôt que de les confronter. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les spectateurs sont autant des spectateurs de séries que des spectateurs de cinéma.
Oui, c'est ça. Oui, on se pose plus véritablement la question, Marie Telling. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se dit pas, tiens, je vais plutôt regarder des séries que de cinéma. C'est-à-dire, si ça nous plaît, on y va.
Oui, bien sûr. Je pense que ça a toujours été un peu le cas. Ce qui est intéressant, moi, dans la question un peu provoque du titre de l'émission, c'est que quand je l'ai entendu, est-ce que les séries ont tué le cinéma, je me suis dit, s'il y a quelque chose qui a tué le cinéma, et je pense pas que le cinéma soit mort, mais si on se pose la question, c'est plus le cinéma en lui-même qui a tué le cinéma.
On va y revenir dans cette question, en
voilà.
effet. Oui.
Et donc, les séries ont apporté, ont offert un champ des possibles à des créateurs de cinéma ou à des acteurs et des actrices qu'ils ne trouvaient plus dans le cinéma. Et c'est pour ça que les séries ont joué ce rôle-là. Quoi.
Alors Frédéric Saucher, vous êtes, je le disais, réalisateur et également professeur de cinéma, donc on peut dire vraiment aussi le 7e art, c'est votre vie. Quand vous voyez aujourd'hui ces séries télé qui aujourd'hui ont meilleure réputation même qu'auparavant, on disait ce ne sont que des soap opéra, comme on disait, maintenant on voit l'industrie de la série si forte, est-ce que ça peut vous faire peur?
Non, ça fait pas du tout peur, c'est un courage à essayer de faire des films meilleurs pour le cinéma d'abord, et puis j'étais tout à fait d'accord avec les précédentes interventions, c'est-à-dire que c'est complémentaire, c'est pas antagoniste. Je rappellerai aussi qu'on a annoncé la mort du cinéma à de multiples reprises. Pour rester dans le domaine de la télévision, quand la télévision est à Paris, on a dit que ce serait la fin du cinéma. D'ailleurs, il y a eu une baisse de fréquentation en salle à l'époque, puis avec le DVD, puis avec les plateformes. Le cinéma, je pense, est toujours vivant, mais bien sûr, il y a des films plus ou moins intéressants, et les critiques sont là, entre autres, pour les révéler. comme il y a d'ailleurs des séries plus ou moins intéressantes. Mmh. Et donc je pense que c'est très important d'ailleurs, peut-être qu'on y reviendra, qu'il y ait un regard critique à la fois sur le cinéma et sur la série, parce que c'est la critique aussi qui fait d'une expression quelque chose d'artistique. Je pense qu'il y a besoin de cette expertise-là, qui est un retour sur les séries et bien sûr sur les films de cinéma.
Et pourtant, Emmanuel Taïeb, là j'ai quelques chiffres qui ne sont pas très très bien pour le cinéma, puisque 12% des abonnés aux plateformes disent ne plus aller au cinéma, et selon une étude IFOP, 41% des abonnés à un service de vidéo par abonnement disent aller moins souvent en salle au cinéma. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable impact tout de même.
Oui, en tout cas, il peut y avoir un effet, disons, du fait que les plateformes ne coûtent pas très très cher et que les séries, c'est très démocratique et qu'on peut les regarder depuis son salon sans se déplacer. Il faut dire aussi que les salles de cinéma, celles qui sont pas subventionnées en tout cas, peuvent pratiquer des prix qui sont un peu élevés et qui peuvent être décourageants si on veut y aller régulièrement ou si on veut y aller en famille. Mais encore une fois, moi je souscris à ce qui a été dit et je pense que les deux médias sont, ou les deux supports sont complémentaires, et c'est des mondes qui sont extrêmement poreux en termes, on en reparlera, hein, de circulation des producteurs, des acteurs, des réalisateurs. C'est un peu le même monde en réalité.
Alors Marie Telling, est-ce qu'on peut dire aussi tout de même, aujourd'hui on lit souvent des articles quand on parle des séries, de l'âge d'or de la série, c'est un peu un cliché. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive, après des années, c'est vrai que longtemps, engager un comédien célèbre dans une série, eh bien lui-même ne voulait pas y aller parce qu'il disait « Oh non, c'est gênant, c'est beaucoup plus noble d'être au cinéma ». Et aujourd'hui, tout le monde tourne dans des séries télévisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la série télé, pour reprendre ce terme, a acquis ses lettres de noblesse véritablement ?
Alors, je pense que ça dépend de quel point de vue on se place, parce que je pense que pour les fans de séries, la série n'avait pas besoin d'acquérir des lettres de noblesse. C'est-à-dire qu'il y a des séries brillantes et révolutionnaires qui ont été diffusés bien avant que la critique, que l'univers du cinéma ne s'intéresse aux séries. Je pense à Urgence, à Twin Peaks, à X-Files, à Buffy contre les vampires. Ce qui est vrai, c'est que le regard du monde du cinéma sur les séries a changé. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est lié à un manquement aussi au niveau du cinéma, en tout cas au niveau du cinéma hollywoodien, où dans les années 2010, on se retrouvait avec énormément de blockbusters, des grosses franchises.
Voilà, des grosses franchises.
Voilà, des films Marvel ou des choses comme ça. Et par exemple, un réalisateur comme Soderbergh, qui est un réalisateur...
Steven Soderbergh, oui, voilà, qui a réalisé notamment, on va dire, Ocean Eleven, qui a réalisé aussi...
Sex, Lies et Videotape.
Sex, on change les vidéos.
Oui, pardon. Il est... c'était un réalisateur de films à budget moyen, en général, de films indépendants. Et lui, en 2013, ce qu'il dit, c'est... J'abandonne le cinéma. Bon, au final, il n'a pas vraiment fait.
Oui,
hein. Mais il dit, j'abandonne le cinéma. Et pourquoi ? Parce qu'il dit, les studios ne respectent pas la vision des réalisateurs. Les studios ne veulent pas avoir de vision d'auteur. Et il dit, là où on peut avoir cette vision et ce champ de créativité, c'est dans les séries. Et il décide de faire The Nick en 2015. Après, il est retourné vers le cinéma. Mais ce mouvement qu'il a eu, c'est beaucoup de créateurs l'ont eu. Et du côté des acteurs et des actrices, c'est pareil. Par exemple, les actrices après un certain âge, alors un certain âge à Hollywood, c'est 35-40 ans pour une actrice, hein, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un rôle. Et une actrice comme Jessica Lange, qui est doublement oscarisée quand même, il a fallu qu'elle attende American Horror Story pour retrouver un rôle à la soixantaine et avoir un Golden Globe. Et à ce moment-là, elle dit qu'elle n'arrivait pas à trouver de rôle.
D'accord.
Et elle s'est tournée vers les séries pour ça. Et il y a énormément d'actrices qui se sont tournées vers les séries pour ça, comme Reese Witherspoon ou Nicole Kidman, qui voulaient aussi être productrices et avoir un peu plus de pouvoir.
Mais si les acteurs et les actrices se tournent aussi vers les séries, c'est que ce qu'on appelle les streamers, hein, donc ces plateformes, ont inventé quelque chose qui n'existait pas, qui est la fameuse mini-série. Vous savez, c'est ces séries en 5, 6, 7, 8 épisodes, et puis... Après, il n'y a pas de saison 2. Donc en fait, l'engagement, il est beaucoup moins fort. Parce qu'avant, et on peut citer Glenn Close, par exemple, qui est l'une des premières à avoir fait ça avec Damages, elle s'est engagée pour plusieurs saisons. Et donc tout d'un coup, c'était un contrat qui était beaucoup plus difficile à gérer. Aujourd'hui, Nicole Kidman peut venir faire 5 épisodes de série, puis repartir faire autre chose, et tant mieux. Mais en fait, l'industrie s'est aussi adaptée aux besoins, et le besoin s'est aussi adapté à l'industrie.
Et Emmanuel Taïeb, c'est vrai qu'on l'a vu, ce mouvement, moi en tête, là, me vient aussi, je me souviens, au début des années 2000, toute une publicité, par exemple, de grandes chaînes de télévision, disant « Ah, Gérard Depardieu va jouer dans une série sur le comte de Monte Cristo », et c'était exceptionnel de voir un acteur très connu jouer finalement dans une série télé. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, c'est plus du tout exceptionnel.
Non, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des mondes, on circule entre ces mondes et les séries ont acquis leur lettre de noblesse. Le fait que ces acteurs-là aillent faire des séries, ça a permis aussi de les légitimer. Il y a des réalisateurs, on parlait de Soderbergh, qui ont navigué entre les deux mondes. On peut aussi penser à Michael Mann. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens, David Lynch, qui sont allés faire des séries. Donc tout ça participe de ce qu'on peut appeler un âge d'or ou en tout cas d'une montée en puissance des séries, mais aussi d'un passage des séries à une écriture cinématographique, à une écriture complexe pour des séries un petit peu plus longues. Donc maintenant, c'est plus du tout un problème pour les acteurs, c'est plus une mise au placard et c'est pas un travail de seconde zone que d'aller faire une série, au contraire.
Oui, mais Emmanuel Taïeb, lorsque David Lynch, pour sa série Twin Peaks, qui est devenue culte, qui était diffusée dans les années 90 sur la 5 même à l'époque, il est l'un des seuls à l'époque, non, à vouloir le faire. Un réalisateur aussi capé, aussi apprécié des critiques, se lancer dans la série télé, à l'époque, comment c'est vu?
Mais ça a été très compliqué, ça a pas été forcément très très bien vu. La série, vous le disiez, a été diffusée sur la 5. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'au début, elle a été diffusée en prime time et puis qu'après, elle est passée en deuxième partie de soirée. Donc ça a été très très délicat. On mettait pas de série en prime et puis Lynch pour le coup a pris des risques, il a été pionnier, mais il est clair qu'il a senti quelque chose et que lui au stade où il en était de sa carrière et des histoires qu'il avait envie de raconter, c'était plus les longs-métrages qui étaient adaptés, c'était vraiment une narration au long cours, une narration complexe, beaucoup de personnages, on appellerait ça aujourd'hui une série chorale, mais beaucoup d'arcs narratifs. Et puis une exploration de la question du mal, qui est quand même au centre de cette série. Là, Lynch vraiment a été très très fort dans vraiment dans le mouvement qu'il a lancé et dont l'écho se fait entendre jusqu'à aujourd'hui.
Et Frédéric Chaucher.
Non, je voulais juste rajouter que David Lynch n'était pas le premier cinéaste connu à faire des séries. Si on parle de la France, on peut citer Maurice Pialat, oui. On peut citer Bergman, on peut citer en Allemagne Fassbinder. Donc il y avait des grands cinéastes, en tout cas reconnus comme tels, de cinéma qui, avant Lynch même, ont commencé à faire de la série.
C'était assumé ou pas? Non, mais par exemple, pourquoi je vous dis, là, la semaine dernière, on a appris la disparition d'un grand réalisateur américain qui était William Friedkin, et on le dit, oui, au départ, pour se former, il fait quelques épisodes. Vous voyez, on le dit, on a l'impression que c'est pour se former.
Mais c'est quand même très important. Enfin, on parle de Lynch, on oublie de citer Mark Frost, quand même, qui a travaillé avec lui, ils ont créé Twin Peaks ensemble, d'accord. Lynch et Frost. La politique des auteurs, qui est un peu la manière dont on parle du cinéma depuis des années, c'est-à-dire le film égale le réalisateur, en série, c'est un peu plus compliqué. Et donc, en fait, c'est là où ça devient intéressant, parce que, au fond, ces réalisateurs qui font des séries, je pense à une femme très importante qui s'appelle Michelle MacLaren, qui est une réalisatrice très importante, qui, aujourd'hui, n'est pas un nom très connue, non. Et pourtant, elle réalise, alors, je sais que vous n'avez pas vu Game of Thrones, mais qui a réalisé des grandes scènes d'affrontement de Game of Thrones, qui est vraiment une femme très importante en termes de réalisatrice aujourd'hui, qui fait des scènes de blockbuster, et son nom est moins connu, et il faut le travail aujourd'hui, par exemple, je pense au travail de Charlotte Bloom, qui est une réalisatrice de documentaire, qui a fait un portrait d'elle pour raconter qui sont ces gens derrière les séries qu'on ne connaît pas, ces réalisateurs, réalisatrices, The Art of Television, qui est une série passionnante, pour raconter que il n'y a pas que les auteurs de cinéma qui font des séries. Ça, c'est un peu l'iceberg un peu joli, parce que c'est la politique des auteurs. Peut-être qu'on peut penser, et je sais que dans le podcast de Marie, ils le font souvent, de réfléchir aussi à qui est derrière les acteurs, les scénaristes, les producteurs. La série est presque plus un truc d'équipe que le cinéma est un truc d'auteur, en tout cas tel qu'on l'a pensé aujourd'hui.
Frédéric Chaucher.
C'est une question, c'est une vraie question, la place du réalisateur dans la série. Et qui est le véritable auteur de la série? Il y a évidemment la question du showrunner.
Showrunner, donc juste expliquer ce que c'est.
C'est la personne qui est à l'idée de la série et qui va coordonner. Par exemple, il y a une équipe de scénaristes qui vont être sous sa direction et donc qui va veiller à ce qu'on appelle la Bible, c'est dans le jargon des séries, soit respectée. C'est-à-dire qu'il y a différents personnages qui ont des caractéristiques, différents arcanes dramaturgiques qui doivent être respectés d'un épisode à l'autre, même si ce sont d'autres réalisateurs ou même si ce sont d'autres scénaristes. Ce qui veut dire qu'on pourrait dire que le véritable auteur de la série, c'est le showrunner. Tout comme à Hollywood, je pourrais faire un parallèle avec le Hollywood classique de l'âge d'or, souvent le producteur avait une très grande importance. Il suffit de lire les mémos de Zelznick, qui était un grand producteur hollywoodien.
Il était fou, c'était vraiment dingue.
Comme beaucoup de producteurs, ouais. Et comme beaucoup de réalisateurs. Et comme beaucoup de réalisateurs aussi d'ailleurs, mais qui voulait tout contrôler. Et pourtant, si on voit les classiques hollywoodiens, il y a des grands réalisateurs qui ont pu marquer de leur empreinte artistique des films dont ils n'étaient pas le scénariste et qui étaient produits dans le cadre des studios hollywoodiens. Donc, c'est ça qui est passionnant. Quand on analyse quelles sont les parts artistiques de chacun, à mon avis, il serait caricatural de dire que c'est forcément le réalisateur qui est le porteur, mais il serait aussi caricatural de dire que le réalisateur n'a aucune importance.
Bien sûr.
Et donc, c'est comment il y a la conjonction entre les deux.
En fait.
Oui, mais tout le monde n'est pas égal dans ce travail, et ça dépend d'un film à l'autre aussi, qui est le véritable porteur ou porteuse du projet.
Marie-Thélie, est-ce qu'on peut dire aussi le succès de ces séries qu'on regarde tous avec passion et parfois un peu aussi d'une manière très addictive, est-ce que c'est aussi un peu la victoire d'une culture populaire on peut dire par rapport, parce que c'est vrai, longtemps, par exemple, quand on aimait n'importe quoi, Magnum ou MacGyver, on disait, toute personne se disait, ah bah oui, bah tiens, ça peut être artistique, ça peut être bien. Et aujourd'hui, c'est ça qui est mis en avant.
Alors oui, je pense aussi, c'est le succès d'une culture un peu geek aussi, mais aussi ce qui est intéressant, et c'est marrant parce que vous avez donné deux exemples de séries qui sont assez masculines, mais historiquement, les séries, c'est un médium beaucoup plus féminin, parce que c'est le médium de l'intérieur, du domicile, donc c'est le médium de la ménagère. Et donc, le public cible, en général, c'était des femmes. Et c'est pas un hasard si, quand la série a acquis ses lettres de noblesse, entre guillemets, et qu'elle a enfin attiré la critique et des visions positives, en tout cas de la critique et du milieu du cinéma, c'est avec des séries comme Les Sopranos, Oz ou The Wire, qui sont des séries typiquement codées masculines, qui peuvent plaire à un public mixte. Moi, j'adore Les Sopranos et The Wire. Mais qui sont dans des milieux ultra masculins et qui sont dans des types de films, mafia, policiers, trafic de drogue, prison, qui en général attirent plutôt un public masculin. Et c'est pas un hasard pour moi, c'est-à-dire qu'on a réhabilité les séries une fois qu'on sait un peu qu'elles se sont masculinisées aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, on a Buffy contre les vampires et Sex and the City qui est diffusé sur HBO aussi et qui pour le coup attire énormément de public sur HBO et est plutôt responsable du succès d'audience d'HBO plus que The Wire en tout cas. Et Sex and the City n'est pas mentionné en général dans les discussions sur la télé prestige alors qu'elle a contribué au même niveau que ces séries.
Juste pour bien expliquer, HBO, c'est donc une chaîne américaine.
C'est une chaîne du câble américaine et c'est la chaîne où s'est située vraiment la révolution des séries avec l'arrivée de la télé prestige parce que c'est une chaîne qui a donné beaucoup plus de place à la création, aux auteurs, à l'écriture. Avec des séries plus courtes, mais de qualité un peu plus... qui se suivaient aussi. Et avec des séries comme Les Sopranos, The Wire, Oz, Sex and the City. Et après, ça a continué. Bon, Game of Thrones aussi, mais voilà.
Mais c'est ça. Mais est-ce que c'est ça aussi? Parce qu'il est vrai, Roland Cross, il ne faut pas se cacher la chose. Les séries elles-mêmes ont évolué en qualité par rapport à ce qu'on pouvait regarder. À un moment, je citais par exemple des exemples. C'est pour ça que je citais tout à l'heure
MacGyver. Mais c'est formidable, MacDom. MacGyver, vous devriez le revoir.
Mais
bien
sûr, mais j'en suis sûr. Mais on n'est pas du tout... Là, on a l'impression maintenant que ce sont des films découpés en chapitres. Est-ce qu'on avait cette idée-là au départ?
Ce que disait Marie, je suis totalement d'accord avec elle, et c'est vraiment très important de le noter, c'est que la télévision au départ était associée à la ménagère avec des fictions, c'est ce qu'on appelle le daytime soap, vous voyez, ces soaps d'après-midi qui n'étaient que pensées autour d'intrigues amoureuses, parce que on imaginait que la ménagère, la seule chose qui l'intéressait, c'était les histoires d'amour. Et puis, quand on s'est rendu compte que ça marchait et qu'il a fallu mettre toute la famille devant la télévision, donc notamment monsieur, il a fallu rajouter quoi? Du sexe et de la violence. Et c'est l'arrivée de Dallas, par exemple, des intrigues beaucoup plus compliquées. Et par exemple, revoir Dallas aujourd'hui, c'est une série qui est passionnante parce que tout d'un coup, elle donne un portrait de l'Amérique. Regarder Dallas avec JR, c'est comprendre pourquoi l'Amérique va voter Trump des années plus tard. Parce que tout le monde adorait JR, qui était cette espèce de cow-boy, comme ça, qui incarnait la virilité dangereuse, qu'on appellerait virilité toxique aujourd'hui. Et donc, ce rapport-là à la série, il est intime, en fait. C'est-à-dire que la série a toujours été très vite un miroir des gens, parce qu'on se regarde dans la série télévisée. Alors que peut-être le cinéma a quelque chose de l'ordre plus du fantasmatique. Et donc, Sex and the City, c'est une série passionnante. Friends aussi, parce que ce sont des portraits d'une époque, à un moment, et on se regarde à travers elle. Et évidemment que les publics marginalisés, je pense donc évidemment le public féminin, les publics LGBT, tout ça, se sont très vite reconnus dans des séries qui n'avaient pas de place au cinéma. Et tout d'un coup, on leur disait, en fait, tu peux exister à l'écran. Dallas, un des premiers personnages homosexuels à la télévision américaine.
On va en parler dans un instant. Juste avant, Emmanuel Taïeb, j'aurais voulu lire une question laissée par Greg sur WhatsApp au 07 64 13 70 07. Alors lui, il dit, j'adore le cinéma, j'adore les séries, ça m'empêche pas d'aller deux fois par semaine au cinéma. Mais surtout, ce qui a changé pour moi dans la passion des séries, c'est eh bien tout simplement que désormais, eh bien le grand changement des séries, c'est la sortie quasi simultanée des séries partout dans le monde et la possibilité eh bien de voir une saison en entier avec tous les épisodes fournis et ne plus attendre eh bien pendant 5 semaines un nouvel épisode comme on avait pu le voir, on avait l'habitude auparavant. Est-ce que c'est ce comportement de consommation aussi qui a changé?
Oui, même si les plateformes sont en train de revenir un peu sur ce mécanisme-là qu'on appelle la délinéarisation, c'est-à-dire le fait de pas attendre chaque semaine pour avoir un nouvel épisode. Donc c'est Netflix hein, qui a un peu lancé le mouvement, notamment avec House of Cards, donc des séries qu'on peut binger, comme on dit, c'est-à-dire qu'on peut regarder tout d'un coup, sans attendre effectivement que la télévision et que ses horaires, voilà, qu'il y ait une diffusion. Donc on n'est plus contraint hein, par les horaires et par la grille de télé, on est son propre maître. Donc effectivement, ça, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir un très 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 long film qui serait découpé en 10, 12 ou 24 épisodes, mais en même temps... Donc voilà, c'est une expérience hein, de spectateur qui est nouvelle, de regarder un film très très long et de pas vouloir attendre. Puis évidemment, comme on a placé ce qu'on appelle des cliffhangers, c'est-à-dire des petits moments de suspense à la fin de l'épisode, on a évidemment envie de voir l'épisode suivant. Mais ça, c'est pas nouveau. En revanche, les plateformes commencent un peu à y revenir. Hein, si vous regardez Les Anneaux de Pouvoir, House of the Dragon, etc., on a remis quand même la semaine d'attente parce que c'est mieux pour des tas de raisons en termes d'audience, de publicité, etc., de laisser c'est passé une semaine pour avoir fidélisé les spectateurs et pas tout donner. Donc on les plateformes changent un petit peu de politique là-dessus.
Alors je précise juste Les Anneaux de Pouvoir, donc c'est eh bien la série adaptée hein, qui raconte les débuts du Seigneur des Anneaux. On va continuer à parler eh bien des séries et de la réponse que pourrait apporter le cinéma, ou voir si les deux sont complémentaires dans un instant dans le débat de midi. C'est juste après Alyosha Schneider avec Avant Elle.
Passe ton chemin, t'arrête pas. Non, rien à espérer de moi. Tout me glisse entre les doigts. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non, j'ai pas osé. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé. Non, j'ai jamais eu peur de personne. J'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Jamais eu si peur qu'on m'abandonne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne.
banane.
Le débat de midi. Sur France Inter.
Le débat de midi, juste avant le week-end. Peut-être allez-vous au cinéma, peut-être allez-vous regarder les séries. Eh bien, on oppose justement séries et cinéma en se demandant qui, eh bien, va finir par manger l'autre dans le débat de midi avec Marie Telling, journaliste au HuffPost, également Renan Cros, journaliste critique cinéma, rédacteur en chef du Cercle Séries, et Frédéric Jocher, réalisateur, notamment avec votre dernier film, Le cours de la vie, et professeur de cinéma, et Emmanuel Taïeb, rédacteur en chef de Saison, la revue des séries. Dans un instant, on va parler de la réponse du cinéma, mais Marie Telling, vous vouliez juste réagir. On parlait avant la musique de notre manière de consommer aujourd'hui la série qui avait totalement changé, hein, avec notamment ce qu'on appelle, eh bien, tous ces épisodes qu'on peut avoir en même temps sur les plateformes.
Oui, c'est ce qu'on appelle le binge. Enfin, c'est on regarde tout d'un coup, voilà. En fait. Et ce qu'on
se
y
saoule
perd
de séries.
Exactement. Voilà. Et ce qu'on y perd, bah, c'est ce que Renan disait tout à l'heure. Il y a une forme d'intimité avec les séries, et quand on suit des séries sur des années, qu'on doit attendre une semaine à chaque fois pour découvrir ce qui va se passer, la série fait partie de notre quotidien. Elle fait partie de notre vie, en fait. Et il y a quelque chose de très, très intime qui se lie avec ces personnages. Et aujourd'hui, on perd vraiment ça avec la façon dont les séries sont diffusées en sortant toute une série d'épisodes d'un coup. Alors, c'est vrai qu'il y a des plateformes qui, maintenant, font de façon hebdomadaire comme Prime ou comme Disney+. Mm-hmm. Mais on perd quand même ça. Et surtout, avec des saisons plus courtes, des séries plus courtes aussi, ben, on perd cet aspect... Friends, on l'a suivi pendant 9 ans. Et pendant 9 ans, on a suivi, ouais. Bah, il y avait 22 épisodes.
Bah,
c'est ça, on a l'impression
Friends.
D'avoir été amis avec eux.
Ouais, mais en même temps, les dernières séries, grosses séries dont on a parlé, ce ne sont que des séries qui ont été diffusées une fois par semaine.
Oui, bah, Succession.
Succession, Game of Thrones,
White Lotus.
Ouais. C'est-à-dire que, en fait, la frustration fait partie de la série télévisée. Mmh. C'est le plaisir de la frustration. Le bon épisode de série s'arrête toujours trop tôt. C'est le moment où vous voulez voir la suite. Et donc, dans cette frustration, il y a une fiction qui se crée à l'intérieur de nous. On se dit, est-ce que machin va faire ci? Est-ce que, en fait, c'est le frère de truc? Est-ce que dans Succession, ils vont finir par s'aimer? Non, finalement, ils n'ont jamais par s'aimer dans Succession.
Non, jamais.
Mais en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la série télévisée produit la fiction du spectateur. Mmh. Et le binge-watching, en fait, a un peu accéléré ça comme une sorte de produit de consommation. Et qui fait, et d'ailleurs, rien ne vous oblige à regarder l'intégralité des épisodes disponibles. Ouais. On peut aussi pratiquer une sorte de yoga de la série où on cherche comme ça à étirer comme ça le temps de la fiction.
Frédéric Socher, est-ce que vous diriez aussi, on l'entend souvent ça par rapport à la série, et on dit souvent les personnes qui préfèrent regarder des séries aussi qu'aller au cinéma, en gros les séries sont plus modernes dans les thèmes abordés. On le voit qu'ils seraient plus finalement focalisés sur la société aujourd'hui, notamment sur les affaires de genre, sur les minorités, sur les intrigues également. Est-ce que vous trouvez que la série est plus moderne aujourd'hui que le cinéma ?
Alors, plus moderne, je ne sais pas, mais en tout cas, elle permet d'être davantage ouvert aux questions de société contemporaine, parce que notamment, il y a différents personnages. Il y a beaucoup plus de personnages dans une série, et donc on peut, par les personnages, avoir la diversité qu'on n'aura pas forcément dans un film de cinéma. C'est pas toujours le cas, mais souvent dans un film de cinéma, il y a un ou deux protagonistes et des personnages secondaires, tandis que dans une série, on peut avoir une galerie de personnages qu'on va retrouver grâce à la durée de la série. Donc ça permet d'avoir un plus grand éventail sociologique. Mais c'est pas pour ça que c'est plus moderne ou moins moderne, peut-être plus en phase effectivement avec la question de société.
Ouais,
par contre, je pense qu'il y a une vraie spécificité au cinéma, j'aimerais qu'on en parle aussi, qui remonte aux origines. Puisque la France a l'habitude de dire c'est le pays qui a inventé le cinéma, et en fait, elle ne l'a pas inventé le cinéma, elle a inventé le cinéma en salle. Puisque l'invention des Frères Lumière, c'était de projeter des films en salle, c'est effectivement les premiers qui ont permis de faire ça. Tandis qu'Edison, au même moment aux États-Unis, avait inventé un autre appareil qui s'appelle le kinétoscope et qui permettait de voir un film uniquement de manière individuelle, un petit film qu'on pouvait voir dans un petit appareil tout seul. Et c'est un peu la question qui se pose avec les séries aujourd'hui. Et la salle de cinéma reste une expérience collective qu'on vit surtout avec des gens qu'on connaît pas. C'est ça qui est formidable, qu'on se retrouve.
Et c'est l'essentiel d'ailleurs. C'est-à-dire que les gens qui ont un home cinéma et qui pensent faire comme au cinéma, à moins d'inviter des gens que vous ne connaissez pas chez vous, vous ne serez jamais au cinéma. Le cinéma, c'est la société, c'est être avec des inconnus.
C'est ça, oui, Marie Telling.
Oui, je voulais juste rebondir sur l'aspect diversité des personnages. Oui. Ce qui est intéressant aussi dans les séries, c'est qu'il y a une diversité dans aussi l'équipe de création. C'est-à-dire que on en parlait tout à l'heure, en règle générale, les scénaristes qui écrivent des séries, c'est dans ce qu'on appelle des writer's room, donc c'est des salles de scénaristes où, en général, c'est en train de changer, et malheureusement, c'est une des raisons pour lesquelles il y a la grève des scénaristes en ce moment. Mais normalement, traditionnellement à Hollywood, il y a un groupe de scénaristes qui travaillent sur une série et sur des épisodes. Ce qui veut dire que pour chaque épisode, va y avoir plusieurs voix qui vont pouvoir s'exprimer. C'est pas parfait. Hein. Il y a eu là sur Lost, on a appris par exemple que des scénaristes noirs ou des scénaristes issus de minorités s'étaient sentis souvent lésés ou pris à partie ou des choses comme ça ou harcelés. Mais ça permet aussi d'avoir souvent des voix différentes qui s'expriment, ce qui n'est pas le cas le plus souvent dans des films avec un scénariste qui va exprimer sa voix à lui ou à elle, et qui va être plus unique.
Emmanuel Taïeb, justement aussi la série par rapport au cinéma, il y a un phénomène maintenant assez étonnant quand on le voit avec toute cette offre hein, que l'on a pléthorique de séries, c'est en fait cette pression. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est vrai qu'on a toujours du retard par rapport à ce qui peut se passer. Il y a tellement de nouveautés, tellement de choses. On nous dit « Ah, t'as pas vu ça, il faut voir ça », on a l'impression d'être tout le temps en retard. Est-ce que ce phénomène aussi, ça n'accentue pas un peu la pression qu'on peut avoir aujourd'hui en tant que spectateur avec une offre si pléthorique ?
En tout cas, c'est un problème. Voilà. C'est-à-dire que, il y a toujours eu, si on parle du cinéma, il y a toujours beaucoup de sorties de films chaque semaine. Il est clair que la multiplication des plateformes, la multiplication des productions, parce que les séries, c'est une production internationale, hein, donc on peut aussi voir des séries de plein de pays, fait que ça devient très, très compliqué à suivre. Et que, à une époque, quand on avait loupé un film, c'était possible de voir un film. Là, quand on vous dit, vous avez loupé les trois premières saisons, de telle ou telle série, ça va être très, très compliqué, de les voir. Parce que évidemment c'est chronophage. Alors il y a des mécanismes. Hein. Netflix permet de voir les séries en allant une fois et demie plus vite. Je déconseille. Ça accélère aussi la musique. Donc c'est un vrai problème dans l'expérience du spectateur. Mais oui, ça accroît la pression. Ça donne un sentiment d'ailleurs assez réel de profusion et de multiplicité. Donc d'un univers un peu compliqué qui devient un peu une jungle. Mais on peut aussi se réjouir de cette offre et se dire qu'il y a encore plein d'univers fictionnels à explorer.
Ronan Cross.
C'est marrant parce que moi, quand je dis à mes étudiants de découvrir Tulu Beach, pareil, ils me disent mais c'est impossible, il y a trop de films, tout John Ford, il y a trop de films. Donc en fait, c'est la question de la sériephilie et de la cinéphilie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit regarder. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la cinéphilie, c'est vraiment basé sur un truc d'autorité. Il faut avoir vu, je sais pas, 2001, l'Odyssée de l'espace, il faut avoir vu. La sériephilie, j'ai l'impression qu'elle est en train, en tout cas, elle travaille quelque chose de beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'on peut très bien vivre sans avoir vu Game of Thrones. Vous en êtes
c'est vrai. Mais là aujourd'hui sur France Inter, je n'ai pas vu Game of Thrones.
Non, mais et je pense qu'il faudrait pas que la sériephilie se calque sur la cinéphilie, c'est-à-dire en fait on est aussi très libre d'aimer ce qu'on aime, d'être curieux. Alors évidemment c'est la curiosité qui est importante, mais moi je vois dans mon émission au Cercle Série, je dis toujours à la bande attention de ne pas être dogmatique, c'est-à-dire dire si vous n'avez pas vu The Wire, comment vous pouvez c'est voyeur qui a une série sur écoute très connue et très importante, donner aux gens l'envie d'eux. Et je crois que la sériephilie et tout ce travail aujourd'hui des critiques, c'est déguiser la curiosité que peut-être la cinéphilie avec ses autorités d'arguments comme ça, cette façon a un tout petit peu perdu.
Alors il y a pas mal de messages justement sur via l'application France Inter. Stéphanie hein, qui nous dit Netflix me permet de voir mes films et séries en VO. J'habite en province et les films en VO sont assez rares. Alors il y a aussi des critiques contre les séries, des critiques contre le cinéma, mais il y a une critique qui est assez intéressante de la part de Sylvain et Frédéric Schauder, et vous allez peut-être pouvoir y répondre. Les évolutions de format dues essentiellement au phénomène Netflix participent à ce que les films prennent maintenant des longueurs totalement démesurées. Personnellement, je me refuse à aller voir certains films parce que trop longs ou en plusieurs parties. Par exemple, là, il dit Mission Impossible. Donc, en effet, une saga, en effet, on en est au 7e ou 8e, je ne sais plus.
Ça dure 3 heures.
Voilà, ça dure 3 heures. Est-ce qu'en effet, aujourd'hui, il y a une tentation de la part des producteurs de se dire ben les gens sont capables de regarder 5-6 saisons de Peaky Blinders, donc et ben les films on va suivre le même mouvement.
On peut prendre un autre exemple actuel qui est Oppenheimer, donc qui est ici un film de 3 heures. Et donc peut-être qu'il y a chez certains spectateurs ou chez certains distributeurs l'idée que quand on paye son billet d'entrée, même si on a un abonnement UGC ou autre, ou MK2, enfin on ne va pas tous les citer, qui permet de voir un film régulièrement au cinéma, qu'on en veut pour son argent, entre guillemets.
Bien sûr.
Et ça, ce qui veut dire aussi qu'on irait plus voir les blockbusters ou les films à grand spectacle. Et ça, c'est la vraie question. C'est la question, enfin, en tout cas pour moi comme réalisateur, qui est celle de la diversité des films en salle. Puisque ce que je trouve, ce qui fait la grande richesse du cinéma français, mais aussi de la programmation des films en France, c'est la diversité. je pense que c'est le pays au monde où il y a le plus d'offres en salle, dans le rapport entre le nombre de salles et le nombre d'habitants, et aussi la plus grande ouverture aux cinématographies étrangères, puisque même aux États-Unis, à Los Angeles ou à New York, vous ne trouverez pas autant de films étrangers que vous en trouvez sur Paris ou dans les grandes villes françaises. Alors peut-être pas, il y a le problème de la VO pour les plus petites villes, et c'est une vraie question, mais il y a quand même un réseau de salles art et essai en France qui est unique au monde. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu là, parce qu'on a beaucoup parlé des séries, et c'est pas du tout incompatible, c'est pas du tout antagoniste, mais le cinéma en salle, ça reste quelque chose de très important, en France en particulier.
Il faut le souligner. Alors il y a également Antonin qui rejoint ce que vous disiez, Marie Telling, en début d'émission, qui nous dit si le cinéma se meurt, ce n'est pas nécessairement à cause du développement des séries. Le cinéma doit faire son introspection. Les films sont souvent inaccessibles par leur prix et leur longueur, et aussi, nous disent certains, par leur intérêt. On voit en effet un cinéma, on a vu, il y a eu des états généraux du cinéma, c'était en octobre dernier à l'Institut du Monde Arabe à Paris. On a vu que les plateformes étaient mises en cause. Mais en effet, on se demande si le cinéma commence à se poser la question de sa santé à partir du moment où les plateformes les menacent. Mais en fait, ça fait longtemps, non ?
Oui.
Il devrait déjà s'interroger, qu'il devait s'interroger sur sa santé.
Oui, c'est sûr. Après, beaucoup se sont interrogés sur la santé du cinéma depuis longtemps. Hein, et je pense que, enfin, les conversations autour justement de l'obsession autour des franchises ou des choses comme ça, ça fait longtemps qu'on a des conversations autour de ça. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a une conversation sur la santé du cinéma et des séries. C'est-à-dire qu'on a vraiment là les acteurs qui sont en grève et les scénaristes qui sont en grève, c'est des scénaristes et des acteurs.
À Hollywood en ce moment, il y a
à Hollywood, voilà, de séries et de cinéma. Hein. Donc la crise, elle est partout. Elle est liée aux plateformes. Elle est liée à l'intelligence artificielle. Elle est liée à énormément de problématiques, mais qui recouvrent les deux. C'est-à-dire qu'il y a une, il y a un côté algorithmique dans la façon dont on développe des films et des séries aujourd'hui, où on se préoccupe plus de coacher des cases parfois et de séduire certains publics qu'autre chose. Et donc, ces problématiques, elles recouvrent les deux genres.
Alors, ça tombe bien parce que justement, on nous a laissé une note vocale sur l'application France Inter. Vous allez voir, ça va dans le sens de ce que vous disiez, Marie, c'est incroyable. Voilà, on va écouter cette note vocale laissée par Chancel Vie.
Je ne pense pas, au contraire. Je trouve que les séries ont perdu en qualité avec l'avènement du streaming. Netflix, Disney, etc. produisent énormément de séries. C'est quantitatif, mais ce n'est pas qualitatif. Les séries ont perdu en qualité. On a de plus en plus de séries qui font une saison, de plus en plus de séries où les personnages, l'histoire des personnages n'est pas suffisamment développée, alors qu'auparavant, on arrivait quand même à avoir le début et la fin de l'histoire, ce qui permettait de s'attacher beaucoup plus aux personnages. Le cinéma garde cette qualité de pouvoir nous offrir un début et une fin.
Voilà une note vocale laissée par Chancel Vie. Alors c'est vrai que c'est assez intéressant, Renan, que ça veut dire qu'aujourd'hui, les séries, en effet, connaîtraient un petit peu une petite fatigue ou pas sur l'intérêt qu'on peut porter ?
En fait, c'est une sorte de développement logique. C'est une forme, elle se développe, elle devient indépendante, puis elle devient industrielle, puis tout d'un coup, elle arrive à son haut niveau, puis tout d'un coup, elle vit une crise. Ce que disait Frédéric tout à l'heure sur la place du blockbuster, si on se reporte à Hollywood dans les années 50, c'est le même problème, la télévision arrive, donc tous les studios font des films de grands spectacles, c'est l'arrivée de la comédie musicale, c'est West Side Story, donc on en prend plein les yeux. Et puis, petit à petit, il y a une contre-révolution qui apparaît, c'est le nouvel Hollywood, vous citiez Friedkin tout à l'heure.
Fait, oui.
Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se crée, il y a aussi son envers qui se crée. Donc, à l'inverse, ces séries qui sont évidemment de plus en plus algorithmiques aujourd'hui, et moi, par exemple, j'ai de plus en plus de mal à regarder une série Netflix, parce que je sens bien qu'elle n'est pas pour moi, ou en tout cas que ce qu'elle propose m'intéresse de moins en moins. Alors, pas toutes, évidemment, mais en fait, ça veut dire qu'il y a d'autres endroits qui vont créer quelque chose en série, qui vont peut-être que c'est par exemple sur YouTube aujourd'hui, c'est les fameux, ce qu'on a appelé des web-séries à un moment, mais qui sont aujourd'hui des formats différents. Peut-être que le format série va se déplacer, il faut le chercher ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'une forme, elle est vivante. Donc en fait, la série, oui, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a trop de séries, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses et il y a du moins bien. Alors je prêche un peu pour notre paroisse, c'est là où la critique a, et c'est pour ça d'ailleurs que Canal+ a créé le cercle série, c'est que tout d'un coup, on s'est dit, pourquoi depuis des années on parle de cinéma et pourquoi il n'y a pas des critiques de séries qui aiguilleraient le regard, discuteraient et surtout réfléchiraient sur ce que les séries racontent de nous. Mmh. Et c'est moi le principe, en tout cas c'est ce qui m'anime de faire cette émission.
On va continuer à parler des séries et du cinéma, frères ennemis ou au contraire jumeaux. Eh bien on voit ça dans un instant dans le débat de midi juste après Rosalía et Ro Alejandro avec Promesa.
Cumpliré mi promesa, la que te di aquel día. La noche despeja, no llovía, tus ojos robaron el agua del mar. Aunque sea un tramo largo, con tus
sonrisa recargo la fuerza, la pena. A tu lado no me quedan, tu corriente todo se lo lleva. Si es libre la caída, da igual cómo empiece, es como termina. Es que tú tan loquita como yo, pesa más el corazón que la razón.
Una promesa nunca pa mirar atrás. Si preguntaras, yo te la volvería a jurar. Como una perla que volvió al fondo del mar. Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar. Quiero comer cerezas contigo y subir todas las montañas. Tirarnos desnudo en el agua y luego dormir en la playa. Y secarte el cabello y comerte la cara. Y aunque pase el tiempo, no olvidarme de nada.
Si es libre la caída, da igual cómo empiece, es como termina. Es que tú tan loquita como yo, pesa más el corazón que la razón.
Pa' mirar atrás, si preguntaras, yo te la volvería a jurar. Como una perla que volvió al fondo del mar. Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar. Sé que te volvería a encontrar. Yo quiero saber de qué se trata el mundo. Quiero hacerte una silla con mi mano. Quiero vestirme mal y de vestirme mucho. Pasear por la playa con caballo. Quiero cantar y hacerte un dibujo. Quiero tener plata, no tener nada de nada. Partir 100 botellas y reírme mucho. Y hacerlo contigo. Y hago lo que haga.
France Inter. Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi.
Le débat de midi, nous parlons des séries télévisées. Sont-elles en train de manger ou non le cinéma? Ou est-ce le contraire? On en parle avec Marie Telling, journaliste au HuffPost, spécialiste eh bien, des séries. Également Ronan Croche, journaliste critique cinéma, rédacteur en chef du Cercle Série. Et Frédéric Jauger, réalisateur et professeur de cinéma. Et Emmanuel Taïeb, rédacteur en chef de saison, la revue des séries. Marie Telling, je vous ai vu danser un peu sur Rosalia. Hein,
oui, c'était très sympa.
Oui, non, mais très bien, voilà, c'est ça. Alors juste, on va venir dans un instant sur cette différence aussi cinéma-série, mais Ronan Croche, tout à l'heure, vous disiez, moi, par exemple, les séries Netflix, je ne les regarde moins ou plus. C'est-à-dire que comme dans un style de cinéma, en fait, on peut reconnaître une série Netflix.
C'est pas tant un style de cinéma qu'un style de studio. Et Frédéric en parlait, dans les années 30-40, Hollywood, les studios avaient des identités. On allait voir un film Warner, on allait voir un film MGM, on allait voir un film Paramount. Alors si on était par exemple un peu chic, on allait voir un film Paramount parce qu'on savait que la Paramount allait mettre en valeur les auteurs. Alors que si on voulait un truc un peu plus bourrin, on allait voir un film Warner. Bah aujourd'hui, par exemple, si j'ai envie de voir un truc très efficace, très carré, très algorithmique, je sais que Netflix va me donner exactement une sorte de milieu de terrain, un truc un peu fabriqué. Mais par exemple, si je vais aller voir, je sais pas, par exemple les créations françaises de Disney+, oui. On pense à une série qui s'appelle Oussekine sur Malik Oussekine.
Malik Oussekine,
j'ai été très impressionné par l'ambition par exemple de Disney+, les créations originales de Canal+, il y a une vraie ambition. Arte par exemple, les créations d'Arte, enfin vous voyez, il y a chacun des identités différentes. Et c'est pas grave en même temps de dire bah je suis pas un public Netflix, il y a pas de on peut aimer des choses sur Netflix mais je suis pas la cible par exemple.
Ce qui est étonnant d'ailleurs avec Ousekine, c'est qu'on se dit par rapport à cette affaire donc qui se déroule en 1986 qu'aucune télévision française ne l'avait fait, il a fallu attendre Disney tout de même pour réaliser
et le faire si bien surtout.
C'est bien, voilà, exactement. Dominique Taïeb, il y a une chose aussi par rapport à ces plateformes. Alors c'est vrai que le cinéma nous paraît assez simple. On achète une place, on arrive dans une salle, on nous diffuse un film. Là, on doit donc s'abonner à des plateformes. Il y a quelque chose aussi du rapport à l'œuvre artistique avec ces plateformes qui préfèrent, plutôt que de films et séries, parler de contenu. Est-ce que finalement, ce n'est pas un mot terrible pour parler de séries et de films ?
Oui, c'est un mot terrible, c'est un mot qui fait obstacle, c'est un mot qui vient du monde industriel et qui peut être effectivement très inquiétant sur ce qu'on a envie de donner à voir aux spectateurs, et c'est un mot qui est effectivement très gênant quand on essaye de voir, c'est mon cas et c'est le cas de vos invités, des choses qui des productions mais qui sont pour nous des œuvres d'art, qui relèvent de l'esthétique, qui relèvent d'un langage cinématographique. Donc je pense qu'il faut pas du tout nous être prisonniers de ce mot-là qui est le mot voilà des producteurs qui le proposent, mais essayer de voir plutôt ce qui est produit, ce qui est écrit, qui écrit, est-ce que c'est de bonne qualité ou pas de bonne qualité, est-ce qu'il y a des pépites. Et effectivement, moi je souscris à ce qui a été dit par Renan Cross, il y a une espèce de formatage et de fatigue un peu dans la production Netflix. Ce qui est intéressant, c'est d'aller trouver des perles rares, alors soit sur HBO, soit sur des productions indépendantes. Je profite d'être à l'antenne pour conseiller à vos auditeurs une très très belle série qui s'appelle Rectify, qui est une série un peu ancienne, mais qui est sur les émotions et le bouleversement d'un homme qui sort de prison et qui va changer complètement toute sa famille. On a une très très belle série américaine remplie d'émotions. Il y en aurait plein d'autres, je donne celle-là parce qu'elle me vient à l'esprit, mais c'est vraiment, ça relève de l'œuvre d'art la plus pure.
Marie Telling, sur ce terme de contenu.
Bah, je pense que ce que ça reflète, c'est l'invasion de la tech dans l'univers de la création de séries et de cinéma, et c'est vraiment au cœur des préoccupations de la grève, justement, j'y reviens, des scénaristes.
À Hollywood, scénaristes et comédiens, d'ailleurs.
Voilà, parce qu'il y a... On va quand même loin, c'est-à-dire que maintenant, ils veulent carrément utiliser des intelligences artificielles. C'est réel, hein, ils veulent utiliser des intelligences artificielles pour créer des séries et pour aussi remplacer les acteurs dans des films et dans des séries. Et là, vraiment, on arrive au bout d'une logique qui était en train de se développer depuis des années. Et ça se voit, en fait. C'est pour ça qu'il y a une multiplication de contenus et une baisse de la qualité. En particulier sur Netflix, on le voit, parce qu'au début, Netflix, quand même, c'était encourageant. Le genre de série qu'on trouvait sur Netflix, il y avait des super propositions. Je pense à BoJack Horseman, à Orange is the New Black. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec des séries de plus en plus basses, qu'on disait algorithmiques, et c'est cette invasion de la tech, et on essaie de reproduire des choses sans avoir de propositions créatives derrière.
Oui, Renan Crossman.
En fait, il y a une très bonne explication de ça. Et d'ailleurs, sur Netflix, Charlie Brooker, le créateur de Black Mirror, dans la dernière saison, a fait un épisode qui s'appelle Joan is Awful. Et c'est l'histoire d'une...
C'est le premier d'ailleurs.
C'est l'histoire d'une jeune femme qui allume une plateforme de streaming vaguement Netflixienne et qui découvre une série qui lui correspond tellement qu'elle en devient le personnage principal. Et elle est terrorisée parce qu'elle devient elle-même un personnage. Évidemment, il y a plein de choses derrière tout ça, mais ce que raconte Charlie Brooker, au fond, l'air de rien, c'est de nous dire que ces séries qui sont soi-disant, comme disait Marie, par la tech, fabriquées pour nous satisfaire, vont finir par nous transformer en personnages, et ça va plus du tout nous plaire. Ce qu'on veut, c'est l'altérité, la différence, ce qu'il y a de différent en nous. Si j'allume la télévision pour ne voir que moi, ça ne m'intéresse pas, je me regarde dans un miroir.
C'est ce que nous dit alors un auditeur sans nous avoir laissé son prénom, il dit « Moi, j'ai arrêté de regarder les séries car j'ai l'impression de ne voir que 3-4 arc narratif qui se développe à chaque série à peu près les mêmes, donc j'ai un peu arrêté, j'ai diminué ma consommation de séries. Frédéric Saucher, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression en effet que le monde de la série, on sait que le cinéma est une industrie, qu'il y a un peu de tout, on parlait des franchises Marvel en effet qui sont là de plus en plus pour vendre plus du jouet que nous proposer véritablement faire une proposition de cinéma. Mais aujourd'hui, quand on voit en effet ce terme de contenu, de ce milieu de la tech qui rentre dans la série, est-ce qu'aujourd'hui le cinéma a aussi ça en avance par rapport à la série, c'est qu'il n'est pas encore complètement grignoté par ça?
Alors, c'est difficile à vous répondre parce que je sais pas avec quelle casquette je vais vous répondre. Si c'est parce que derrière le mot cinéma, il y a plein de cinémas différents. et je souhaite qu'il en soit, qu'il en reste ainsi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des démarches totalement commerciales et qui se revendiquent comme telles, et qui parfois aussi ont une part artistique. C'est le cas des grands films hollywoodiens. Et puis qu'il y ait aussi des films d'auteurs plus petits. C'est mon parcours. Par exemple, là, je viens de film qui est sorti le 10 mai. Il s'est fait pour 700 000 euros, ce qui est un tout petit budget.
Le cours de la vie.
Le cours de la vie, et il a reçu 100 000 spectateurs. Alors 100 000 spectateurs, c'est très peu. Dans l'absolu, mais c'est beaucoup par rapport au budget. Et donc, c'est important que ce genre de film, évidemment, je défends ma chapelle.
Mais c'est normal, bien sûr.
Mais puisse continuer à exister. Par exemple, il y a d'autres films actuellement, comme Chien de la casse, qui est un film que personne n'attendait, qui est en salle, qui fait 80 000 entrées. Il y a Yannick qui cartonne. De Quentin Dupieux. Et donc, je pense que c'est très important qu'il y ait au cinéma des propositions. Alors, pour les séries aussi, d'ailleurs, portées par un regard singulier, des regards singuliers, mais en tout cas que ce soit des objets singuliers. Et comme vous le disiez très justement, je pense qu'on a, besoin d'altérité. On n'a pas besoin de se revoir soi-même dans un miroir. C'est ça qui est la magie de la fiction, que ce soit au cinéma ou dans les séries. C'est comment on peut être emporté par une histoire qui nous dit quelque chose de notre monde, mais qui nous apprend aussi quelque chose.
Marie Telling, on le sait, à un moment, les cinémas sont très critiqués aussi par rapport au prix des places. Hein. Là, on reçoit des messages qui nous disent « Moi, je ne peux pas y aller, ça coûte trop cher. » Et en même temps, on voit aujourd'hui bien des dépenses liées aux abonnements de streaming, comment dire, des plateformes, qui représentent en France donc près de 37 € par mois, et des abonnements continuellement en hausse. Je crois que Disney Plus a annoncé. Alors maintenant, en plus de faire comme Netflix, un abonnement moins cher si on met de la publicité, ça arrivera donc d'ici Noël. Est-ce que ça peut poser à un moment un problème aussi à ces plateformes de dire, bien sûr, on vous propose des séries, on adore ça, c'est super, c'est de mieux en mieux, mais ça va devenir un budget aussi.
Ah ben c'est sûr que ça va être un problème, et surtout c'est pas de mieux en mieux, donc c'est aussi ça le problème, c'est que l'offre de Netflix est de moins en moins bonne, et son prix est de plus en plus cher, et elle est en compétition avec de nombreuses autres plateformes. Si on veut avoir aujourd'hui en France accès à toutes les séries, il faut s'abonner à une dizaine de plateformes. Ouais, c'est complètement fou, et c'est un budget qui est inaccessible pour la plupart des gens.
Mais on va pas voir tous les films.
Exactement.
Donc on va pas regarder toutes les séries. J'ai l'impression qu'il y a, comme si la série, il fallait absolument la consommer. Enfin, non. C'est-à-dire que parfois, moi, enfin, pour le coup, c'est mon métier. Il y a plein de séries que j'ai pas vues. Et comme il y a plein de films que j'ai pas vus.
Et même en picorant, il faut picorer d'un côté, de l'autre.
Oui, exactement. Et puis, on parlait, Frédéric parlait de la créativité. Je pense, là, il y a une série qui va arriver de Xavier Giannoli, qui est quand même un réalisateur, cinéaste, auteur. Moi, ça m'intéresse de voir ce que Xavier Giannoli, je crois que ça s'appelle D'argent et de sang, c'est même à Venise, au Festival de Venise, ça va être présenté. Moi, je suis curieux de voir ce que ces cinéastes-là, ce que même ces créateurs-là vont faire. Quand Valérie Donzelli fait Nona et ses filles sur Arte, bah, je retrouve le cinéma de Valérie Donzelli. Donc, en fait, il y a des voix singulières qui peuvent exister comme à côté de grosses machines, comme il peut y avoir des blockbusters en salle ou des films d'auteur. Mmh. C'est-à-dire que en ce moment, on peut aller voir Barbie et puis on peut aller voir Yannick
c'est
aussi.
Mmh.
Et les deux sont pas incompatibles.
Il peut être le même spectateur qui va voir les deux.
Exactement,
bien sûr, ce qui a été notre cas. Emmanuel Taïeb, on voit aussi certains réalisateurs. Alors, je ne sais pas si c'est une posture ou pas, mais par exemple, Christopher Nolan, donc, qui réalise actuellement l'excellent Oppenheimer, lui a dit « Moi, je ne réaliserai jamais de série télé ». Est-ce qu'il peut y avoir une posture aussi par rapport à des réalisateurs se dire « Ah non, et moi, je ne rentre pas là-dedans, je ne suis pas dans le moule ».
En tout cas, son frère a été showrunner d'une série qui s'appelle Westworld. Donc,
d'accord,
il va avoir des discussions familiales passablement compliquées. Non, bien sûr, c'est pas lui, c'est son frère. Ça peut être une posture. Et peut-être qu'il a envie de défendre le cinéma ou qu'il considère que c'est un format qui est plus intéressant. Bon, peut-être qu'il se prive aussi d'un autre mode d'écriture. Voilà, pense qu'il s'est mis là dans une position très spécifique d'un peu de gardien du temple. Bon, mais comme nous, depuis le début de l'émission, je crois que tous vos invités prêchent pour l'idée qu'on peut être cinéphile et sériephile. On peut faire les deux quand on est réalisateur.
Marie Telling, est-ce qu'il peut y avoir, entre guillemets, hein, je mets bien entre guillemets, j'exagère, une rébellion de certains réalisateurs qui disent « moi, jamais ».
Évidemment, et je comprends Nolan, quand on voit ses films, je comprends, il ne les veut pas sur petit écran, c'est très clair. Et c'est pas, il ne crée pas des films pour petit écran, donc je comprends qu'il n'ait pas envie de faire des séries. Après, c'est vrai que ça lui ferait peut-être du bien aussi.
Oui, de partager, de découvrir l'altérité, voilà, de discuter avec d'autres personnes
forcé,
que lui-même.
Ouais. Et d'être forcé aussi à être dans des formats dans lesquels il n'est pas à l'aise, en fait, et qui le contraignent d'une manière ou d'une autre, quoi.
Pour moi, la vraie révolution, en tout cas, s'il doit y avoir une révolution, c'est le jour où Tom Cruise fera une série télé,
ah oui,
qui est un peu aujourd'hui le patron d'Hollywood. Là, ce jour-là, il va se passer quelque chose. Parce qu'on a vu avec Top Gun qu'il était l'homme qui réussissait à faire revenir les gens en salle. C'est pas Christopher Nolan qui nous avait dit qu'il allait faire revenir les gens en salle avec Tenet. C'est Tom Cruise avec Top Gun. Là, ce serait vraiment quelque chose, ce serait plus qu'un événement. C'est-à-dire qu'on se dirait, OK, donc cette dernière star de cinéma devient une star de télévision. Et c'est pas la même chose d'être une star de télé qu'être une star de cinéma. Vraiment, Tom Cruise, je n'ai pas du tout envie de le voir en série. Bizarrement, je
d'accord,
sais pas pourquoi.
Oui, d'accord.
Et pour moi, il est au cinéma, Tom Cruise.
Oui, c'est ça.
Mais je me disais peut-être dans 20 ou 30 ans, quand il sera, enfin, ce sera une série troisième âge ou quelque chose comme ça, comme Jane Fonda.
Ok.
Vous pensez, pour terminer, Frédéric Sochard, qu'il y a aussi une expérience, à un moment, tout réalisateur devrait se frotter à cet exercice de la télévision, la contrainte aussi que ça peut.
Bien sûr, si la possibilité existe, c'est pas une obligation, mais en tout cas, pourquoi pas. Et il faut se méfier des cinéastes qui disent qu'ils arrêtent de faire des films. Par exemple.
Oui.
Mais je voudrais juste citer Jean-Claude Carrière, qui est scénariste, et qui disait que pour lui, c'était la particularité de l'être humain, c'était ce besoin qu'on a de se raconter des histoires. Et ça, on peut le retrouver au cinéma, on peut le retrouver dans les séries, et c'est très important qu'en France, il y ait la création dans les séries et dans les films pour les salles.
Voilà, les histoires, on n'en a jamais assez et on en trouve bien sûr en littérature. En tout cas, merci beaucoup à vous quatre d'être passés par le débat de midi. Merci à Marie Telling. Je conseille votre livre, donc Le Petit Éloge des anti-héroïnes de série. Renan Creuse, donc journaliste, critique cinéma, rédacteur en chef au Cercle Série. Hein, on vous retrouve sur Canal+. Frédéric Chausseur, réalisateur, professeur, votre film Le Cours de la vie. Et Emmanuel Taïeb, rédacteur en chef de saison La Revue des séries. Merci à vous trois. Je remercie également Loïs Mo, technicien de cette émission. À la réalisation, il y avait Étienne Bertin. Une émission préparée par Aloïs Noé, Savannah Ruelan. Et grand salut, véritablement, à Constance Villanova. Merci pour sa disponibilité. On peut le dire, un vrai combat, en fait, pour trouver autant d'invités passionnants en plein été. Et j'en profite, d'ailleurs, pour faire un appel à TF1. N'hésitez pas à nous envoyer l'intégrale des émissions. Ma mère, ton père, l'amour et moi, Constance, attend de savoir ce qui se passe sur la suite. Et elle a hâte de savoir. Mais en tout cas, elle veut les lire. Et on la remercie. Merci à elle. Et à très vite. Nous, bien sûr, on se retrouve lundi pour un nouveau débat de midi.